BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Philippine Dolbeau.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de BFM Climat, ici depuis le Grand Palais à Paris où bat le cœur de la transition écologique et sociale. Nous sommes sur le salon Change Now, qui n'est pas qu'un salon, qui n'est pas qu'un sommet, vous allez le voir, pour une édition 2025 très attendue, symbolique aussi 10 ans après les accords de Paris et à quelques mois seulement de la COP30. Alors je vous le disais tout à l'heure, effectivement on n'est pas que sur un sommet. Change Now, c'est aussi un accélérateur d'idées, d'actions et de transition. Pendant 3 jours, ce lieu, le Grand Palais, va devenir la vitrine mondiale d'un tas d'innovations, d'actions aussi et de solutions. Pendant 3 jours, vont se croiser justement aux différents acteurs, des gouvernements, des artistes, des scientifiques et puis des citoyens engagés aussi. Alors dans cette émission spéciale, on va se poser quelques questions. Qui sont ces femmes et ces hommes aussi autour de moi qui agissent et qui proposent des solutions pour un avenir et une innovation durable? Comment créer ensemble aussi des ponts entre innovation, écologie, économie et transition? Au programme de cette émission, donc, vous allez découvrir ce qu'il se passe vraiment ici à Change Now à travers 4 rencontres inspirantes. D'abord, on va démarrer par le commencement. Le fondateur, cofondateur de Change Now, Kevin Taibali, qui va nous expliquer pourquoi cet événement est devenu un rendez-vous absolument incontournable sur la scène mondiale. Puis place à une solution aussi que vous connaissez sans doute, Yuka, avec son cofondateur Benoît Martin, qui va nous raconter comment l'innovation peut avoir un impact direct sur notre santé. On ira ensuite à la rencontre de 2 grandes entreprises très engagées aussi dans cette transition écologique, mais qui agissent de manière complètement différente mais complémentaire. D'abord, Mouet Tennessee avec Sandrine Sommer pour parler de régénération des sols. Et puis Soprasteria avec Axel Lemaire qui va nous parler du rôle de l'intelligence artificielle dans la transition écologique. C'est parti donc, mesdames et messieurs, pour une immersion au cœur de la transition écologique et sociétale ici à Change Now. Alors on va commencer par planter le décor d'abord. On va expliquer le sens de cet événement dont vous êtes le cofondateur. Merci d'être avec nous, Kevin Taibali.
Merci à vous.
On va expliquer donc l'évolution de ce salon, ses ambitions aussi pour 2025. D'abord, on est dans un lieu absolument incroyable. Qu'est-ce qui rend au-delà de ce lieu cette ambition 2025 assez folle, assez unique? C'est quoi son ambition cette année?
C'est notre 8e édition et le grand retour au Grand Palais, puisque pendant plusieurs années, nous étions au Grand Palais éphémère. Et là, c'est le retour dans le lieu qui a accueilli les expos universelles à la fin du 19e siècle. C'est un lieu qui est incroyable. Et donc, c'est cette année le retour de l'exposition universelle des solutions pour la planète. C'est vraiment la grande thématique de Challenger cette année, avec plusieurs dizaines de milliers de porteurs de solutions qui viennent des 4 coins du globe, ouais, pour mettre en avant justement leurs solutions, leurs actions, pour faire avancer des enjeux de transition environnementale et sociale. Donc on est ravis de les accueillir. Et évidemment, cette année, 2 grandes thématiques que sont la célébration des 10 ans des accords de Paris. C'était en 2015, vous vous en rappelez. C'était un moment important, justement, où un grand signal, ces accords signés par 196 nations. Et cette année, c'est le moment un peu de faire le bilan. Où est-ce qu'on en est? Et quelles sont les actions concrètes? Puisqu'on a eu un plan qui nous a été présenté. Et maintenant, l'idée, c'est de le mettre en œuvre. Et donc, c'est tout le propos de Change Now qui est de montrer tous les acteurs qui font cette transition et de les aider, justement, à se connecter avec tous ceux qui peuvent les aider dans leur projet. Et la deuxième grande thématique, c'est celle de l'océan, puisque vous le savez, 2025, année de l'eau, de l'océan, on accueillera la France et le Costa Rica, et surtout la France accueilleront en juin prochain à Nice la conférence onusienne LUNOC l'ensemble des dirigeants de ce monde qui seront rassemblés pour justement mettre en avant l'agenda pour préserver les océans et trouver une manière de nous rapprocher de cet écosystème, nous en tant que citoyens et en tant que acteurs.
Alors justement, vous parlez des dirigeants, vous parlez des citoyens, c'est qui vient sur le salon là? Des politiques, des artistes, j'ai entendu dire?
On a une audience qui est très diverse. D'accord. Puisque nous accueillons du grand public, des familles, des enfants, sur des formats plutôt de sensibilisation. Ça, c'est un volet qu'on retrouvera davantage le samedi. Sur les journées du jeudi et du vendredi, donc aujourd'hui et demain, c'est plutôt un public professionnel avec des grands dirigeants. On a plus de 10 000 entreprises qui sont présentes.
Ah ouais.
2 000 décideurs, C-level, plus de 2 000 investisseurs, des administrateurs, des acteurs politiques, des grandes institutions, des porteurs de solutions. Voilà, c'est vraiment des athlètes également, des artistes.
C'est pour tout le monde, en fait.
C'est vraiment un sommet qui a été mis à disposition vraiment des acteurs professionnels et des citoyens, justement, pour trouver concrètement comment est-ce qu'on peut avancer, comment, pour montrer finalement que chacun d'entre nous, à notre propre échelle, on est un acteur du changement, on a des possibilités justement de faire la différence, quelle que soit notre profession, notre rôle dans la société.
Alors derrière nous, on a aussi des entreprises qui sont présentes. C'est quoi leur rôle selon vous dans cette transition écologique et surtout sur ce salon ?
Les entreprises à Chennai, elles viennent pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est qu'elles viennent pour partager leur stratégie RSE, justement mettre en avant toutes leurs réflexions, leurs actions, des cas concrets qui ont été réalisés, des annonces, mais également des apprentissages, puisque la transition, on l'a fait souvent à plusieurs. Et on le sait, la collaboration, c'est un chemin qui prend plusieurs années, justement. Donc on a beaucoup de coalitions qui viennent aussi émerger lors du sommet, puisque ces sujets, on les travaille vraiment avec tout l'ensemble des acteurs de la filière. Par exemple, on a Renault qui vient nous présenter le véhicule emblème, qui est une vraie prouesse de collaboration, puisque c'est le fruit d'une collaboration de plus d'une vingtaine d'acteurs, ArcelorMittal dans l'acier, Michelin, des scale-up, pour justement produire un véhicule familial qui a réduit ses émissions sur l'ensemble du cycle de vie de 90%. C'est une vraie prouesse et c'est la preuve qu'en fait par la collaboration on est capable justement de faire des progrès de géants. On a aussi des acteurs qui viennent comme Saint-Gobain justement pour présenter un baromètre de la construction durable après avoir interrogé plus de 5000 experts dans le monde. On a des acteurs qui viennent soutenir des solutions avec lesquelles ils collaborent. Donc on a par exemple le BCG qui présente le prix de l'entrepreneur social et environnemental de l'année.
Tout à fait.
Cet après-midi, on a également la présentation du ranking Impact 40-120 justement du mouvement Impact France qui présente les licornes à impact justement qui feront le futur du changement en France et à l'international. Et puis on a également en fait des entreprises finalement qui viennent faire qui viennent rassembler leurs collaborateurs. On a des entreprises comme Bouygues, comme EDF, comme Accor qui se retrouvent avec des centaines de collaborateurs pour faire de l'acculturation, pour se retrouver, se rassembler et réfléchir ensemble à qu'est-ce que en fait ça veut dire pour moi, mon entreprise, d'être dans un chemin de transformation.
Sacrée question.
Et finalement, c'est vraiment un moment de rassemblement et d'inspiration pour l'ensemble de ces
acteurs. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. C'est tout ce qu'on souhaite aussi à ces entreprises, bien sûr. On va en parler, d'ailleurs, de ces entreprises. On va voir, juste après votre interview, Yuka. Vous connaissez par cœur, qui a changé, bien sûr, nos vies. L'objectif, c'est de voir avec eux, justement, quel impact une solution d'innovation peut avoir sur nos comportements, sur une industrie aussi agroalimentaire. On voit ça dans un instant. D'abord, merci beaucoup.
Merci à vous
d'avoir été parmi nous et surtout tout le meilleur pour ce salon.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Alors, on va parler de Yuka maintenant avec vous, Benoît Martin. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui.
Merci vraiment vous de l'invitation.
Mais je vous en prie, vous en êtes le cofondateur, Yuka. Alors, des millions d'utilisateurs à travers le monde, une solution qu'on ne présente plus, mais il y a quand même encore des gens qui ne connaissent pas ce que vous faites. D'abord, comment vous est venue l'idée, peut-être rapidement, de Yuka ?
Moi, je suis papa de trois enfants, donc quand j'étais plus jeune, je faisais pas vraiment attention à ce que je mangeais, mais assez vite, je me suis senti une responsabilité de faire le meilleur choix pour mes enfants.
Bien sûr.
Et puis j'ai vite vu que c'était une jungle, en fait, le supermarché, et que pour décrypter des produits, il fallait être toxicologue, il fallait passer des heures. Et je voulais une solution simple, efficace, pour ne pas perdre de temps. Donc voilà, c'est né de cette idée.
Donc c'est une application aujourd'hui. 40 millions d'utilisateurs, je crois, maintenant.
68
Donc ça ne cesse de grandir. Mes chiffres ne sont plus à jour du tout. Quel a été, selon vous, le principal levier du succès, justement ? Est-ce que c'est le fait que ce soit la conjugaison, peut-être, entre innovation et transition écologique et transition alimentaire aussi ?
La simplicité, je pense.
La simplicité, bien sûr.
C'est quelque chose de complexe, l'alimentation. Mesurer l'impact sur la santé, sur l'environnement, c'est des choses qui sont complexes, mais on essaie de les rendre simples, rapides, accessibles. Voilà.
Alors, autant les utilisateurs qui sont les vôtres, 68 millions, donc c'est à peu près tous les Français, hein, c'est quand même
Alors, c'est dans le monde.
C'est dans le monde, mais ça représente quand même une population énorme. Ces Français et ces utilisateurs, ils vous considèrent comme quelqu'un qui vous aide, une application en tout cas qui les aide dans leur quotidien. En revanche, les industriels, ils vous voient parfois comme un perturbateur. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce rôle ?
Oui, on est là pour faire bouger les choses, donc on est là pour faire. On a deux leviers. C'est les consommateurs sont des acteurs, des acteurs du changement. Et donc, s'ils poussent les industriels à modifier leurs produits, à les améliorer, on est super à l'aise avec cette idée.
C'est ce que vous recherchez quelque part.
C'est ce qu'on recherche, bien sûr.
Est-ce que, selon vous, l'innovation peut rester justement simple ? Vous me disiez que ce qui a cartonné chez vous, peut-être, c'est cette simplicité d'utilisation aussi et cette simplicité que vous apportez à vos utilisateurs. Est-ce que cette innovation, justement, au service de vos utilisateurs, au service de l'agroalimentation, au service de l'environnement, elle peut rester simple au grand public tout en changeant le monde aussi ?
Tout en changeant ?
Le monde.
L'alimentation, c'est un impact majeur pour sa santé, pour celle de sa famille. C'est un impact majeur sur le climat. Hein. Ouais. On sait que c'est 28% des gaz à effet de serre, c'est 70% de la consommation d'eau douce. Donc, c'est des choses qui ont un impact à la fois sur la santé et sur l'environnement. Et donc, oui, de rendre chacun acteur de ça, ça nous rend fiers. C'est un enjeu majeur que chacun puisse s'approprier à travers une application. Mais en fait, on ne devrait même pas exister. Ça devrait être sur le produit. On devrait pouvoir avoir l'information claire sur un produit et pas avoir à scanner.
Ça fait partie de vos combats aujourd'hui, des prochaines étapes de Yuka au cours des prochains mois, des prochaines années ?
Oui, pour nous, on dit toujours que... On veut combattre le marketing agressif qui fait qu'en fait on sait pas faire le bon choix au supermarché. On veut essayer un peu de décrypter ça, de rendre ça plus lisible.
Plus lisible. Alors justement, on est ensemble aujourd'hui au cœur de Change Now. Est-ce que vous avez pu faire un petit tour ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce salon-là ?
Pas encore, je viens d'arriver, mais il y a une énergie positive incroyable. Ça fait trop plaisir à voir de voir. Tous ces acteurs du changement qui sont là aujourd'hui. Donc,
pourquoi c'était important justement pour vous d'être ici aujourd'hui ?
Pour rencontrer nos utilisateurs, pour rencontrer aussi des industriels, des marques, pour leur expliquer notre démarche. On est dans une démarche positive de changement. On n'est pas là pour combattre qui que ce soit. Ouais. Et ils sont acteurs de ce changement.
Vous êtes tous ensemble, quelque part.
Exactement.
Dans ce combat aussi, dans cet engagement qui est le vôtre depuis plusieurs années déjà. Est-ce que vous avez un message à adresser à celles et ceux qui, peut-être comme vous, il y a quelques années, se disent « mais moi aussi, je pourrais participer à ce changement, m'engager, créer une solution peut-être à impact, mais qui n'osent pas encore ?»
Non, tout est possible, il faut franchir le pas, il faut mettre, moi j'avais un boulot, je trouvais pas de sens, c'était pas facile avec des enfants de passer le pas, de s'engager. On a toujours des bonnes raisons de ne pas le faire, mais il faut oser. Donc c'est mon message, oser.
Il y a encore plein de choses à faire justement pour oser dans ce secteur de la transition écologique et sociétale, selon vous. C'est un beau terrain de jeu ?
C'est un terrain magnifique.
Terrain magnifique ?
C'est un terrain magnifique, plein d'avenir et ça donne de la fierté. Je serais fier que mes enfants voient le chemin accompli.
Bien sûr. Un dernier mot peut-être avant qu'on termine cette interview. Benoît, si vous aviez un politique demain qui vient sur votre stand, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Rendre obligatoire l'étiquetage, rendre obligatoire le Nutri-Score sur les produits et surtout mettre en place un étiquetage sur l'impact environnemental des produits. C'est dans la loi depuis 5 ans, il n'y a pas de décret d'application.
D'accord.
C'est un scandale que ça avance pas. Tous les consommateurs sont en attente d'une information lisible et on ne bouge pas sur le sujet. Donc, emparez-vous du sujet, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, en tout cas, Benoît Martin, d'avoir été parmi nous.
Merci.
Ces politiques, justement, ils vont peut-être venir vous voir. Vous aurez peut-être l'occasion, en tout cas, de leur parler de ce sujet qu'on comprend important pour vous comme pour d'autres millions de consommateurs, bien sûr. Vous êtes toujours le bienvenu, en tout cas, chez BFM Climat. On vous souhaite tout le meilleur sur ce salon.
Un grand merci.
Merci d'avoir été parmi nous. Et puis nous, on va continuer, bien sûr, cette émission. Montrer l'engagement aussi dans un instant, vous allez le voir, d'un grand groupe, celui de Mouet Tennessee, engagement sur les sols vivants et leur régénération. On voit ça dans un instant. Allez, on va continuer l'émission avec maintenant une nouvelle invitée, Sandrine Sommer. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Merci. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes directrice du développement durable chez Mouet Tennessee. Vous avez un stand magnifique juste là derrière nous. Et justement, ce stand, on le voit tourner autour de la terre, etc. Vous, votre sujet en ce moment, c'est la régénération des sols vivants. C'est un sujet qui est important pour vous. Pour le grand public, ça peut être un peu compliqué à comprendre. Dites-nous pourquoi justement c'est un sujet pour vous et pour Mouet Tennessee aujourd'hui.
Les sols vivants, c'est capital. En fait, les sols, et c'est vrai que c'est un écosystème qu'on connaît moins, mais les sols, c'est le début de tout. Et les sols, en fait, une fois qu'ils sont en bonne santé, ils permettent de capter du carbone. Donc, ils sont bons pour le climat, évidemment. Ouais. Des sols en bonne santé, ça retient l'eau aussi. Donc, c'est aussi important pour cette ressource précieuse. Et puis, des sols en bonne santé, finalement, ça permet d'avoir plus de biodiversité au-dessus des sols et aussi en dessous des sols. Peu de gens savent que dans une cuillère de sol, on a plus de micro-organismes vivants que sur la planète en entier. En fait. Donc, c'est vraiment un écosystème incroyable. Donc, c'est vrai, nous, on en a fait vraiment chez Mouettensi notre fil rouge de pas seulement limiter notre impact environnemental, mais aller un cran plus loin et régénérer les sols pour avoir des sols vivants.
Exactement. Alors, concrètement, comment ça se passe au quotidien ?
Alors, concrètement, comment ça se passe ? En fait, ce que je vous disais, on essaye de pousser ce qu'on appelle des pratiques d'agriculture ou de viticulture régénératrice. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, typiquement, il ne faut pas laisser les sols nus. Donc, en fait, il faut couvrir les sols. Nous, on a des cultures pérennes avec nos vignobles. C'est-à-dire qu'on ne change pas de vigne tous les ans, tous les 6 mois. Elles sont là pour 30 à 40 ans. Ouais. Mais par contre, en interrang, en fait, entre deux rangs de vignes, c'est important là de couvrir les sols. Donc on met ce qu'on appelle des couverts végétaux. Donc on plante différentes espèces, de la luzerne, du trèfle, etc. Donc ça c'est important, c'est une des pratiques régénératrices. Ensuite, d'autres types de pratiques régénératrices, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Et donc en fait, c'est de venir planter des haies et des arbres en pourtour de parcelles, mais également ce qu'on appelle en intra-parcellaire.
D'accord.
Donc voilà, vraiment la haie, d'abord, elle est capitale parce que, en termes de paysage, c'est quand même plus joli de voir des paysages avec des haies plutôt que de la monoculture à perte de vue. Donc, évidemment, c'est bien. C'est des habitats pour les oiseaux, pour les insectes. On a besoin de faire revenir de la nature aussi dans nos parcelles, sur nos terroirs. Et puis, c'est bon pour les sols, c'est ce que je disais. Ça vient régénérer les sols. Mmh. Et puis, d'autres pratiques qui peuvent être, évidemment, la limitation des intrants et pour limiter la pollution des sols. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment l'agriculture régénératrice, la viticulture régénératrice. D'accord. Et c'est ce qu'on pousse, ce qu'on fait, donc pas loin de plus de 3000 hectares sur nos vignobles partout dans le monde.
D'accord.
Qui sont déjà passés sur ces pratiques régénératrices. Voilà, donc c'est ça ce qu'on essaye de pousser, de continuer, d'accélérer.
Un engagement en tout cas qui est très fort, hein, on le comprend chez vous et que vous mettez en avant aussi ici à Change Now. Change Now, on parle aussi beaucoup ces 3 jours sur ce salon de coalition, de plateforme, de faire ensemble. Justement, ce projet-là que vous avez depuis maintenant longtemps, il ne concerne pas que vous, il y a tout un écosystème derrière.
Bah, bien sûr. D'abord, quand on parle de sol, on rappelle que c'est un bien commun.
A priori.
Exactement. Et puis après, quand on parle aussi de nos business, on est sur des terroirs, sur des territoires, on n'est pas tout seul.
Bien sûr.
Et évidemment, l'enjeu, c'est d'embarquer largement, donc de créer ce qu'on appelle le joining forces, les coalitions, etc.
Est-ce que ça, c'est facile ?
Alors, c'est facile. Pas tant que ça. Et c'est pour ça que justement, pour accélérer ces coalitions et le fait de travailler encore plus ensemble.
D'accord.
Des summits, des events comme Change Now, c'est capital. Et c'est la raison pour laquelle on est présent aussi. C'est pour aussi engager les conversations. C'est pour aussi, en fait, favoriser justement ces coalitions.
Ouais.
Et on est présent là sur l'événement cette année. On a aussi décidé de créer un événement dédié à la régénération des sols.
D'accord.
Qui s'appelle le World Living Soils Forum. Désolé, on l'a pris en anglais. Donc c'est le Davos des sols.
D'accord.
Et donc c'est un événement qu'on a créé en 2022, le premier qui a lieu, qu'on organise tous les 2 ans. Et donc l'idée de ce forum dédié sur les sols pendant 2 jours,
ouais,
donc presque 30 heures de discussion. Change Now et co-organisateur de ce forum. Donc on a le même système de 4 scènes en même temps avec des thématiques différentes. Donc fil rouge autour des sols et on aborde tous les sujets autour des sols. Le carbone, l'eau, le niveau de vie des agriculteurs et des viticulteurs.
Sujet
très important,
important
aussi quand même, c'est voilà, bien sûr.
Tout à fait.
Les innovations, enfin, on aborde tous ces sujets et en fait on fait venir et on invite toutes les parties prenantes qui sont connectées au sol. Quand on dit partie prenante connectée au sol, donc on pense bien sûr à des business comme les nôtres.
Bien sûr.
Donc bien sûr, nos compétiteurs sont invités, font partie et sont plus que présents sur ce forum. Mais aussi d'autres grandes entreprises type l'agro-business.
Oui.
Donc Danone, Nestlé.
Tout le monde est concerné.
Bien sûr, tout le monde est concerné. Puis des plus petites structures, hein, je parle que des grosses structures, mais aussi des plus petites structures.
Ouais.
Les, bien sûr, agriculteurs et viticulteurs qui sont clés dans cette transition,
bien sûr.
On les invite et on aimerait d'ailleurs qu'ils soient encore plus présents. On espère que le prochain, il y en aura encore plus. Et puis aussi tout ce qui est institutions, gouvernement. Ils sont là, la Commission européenne, ils sont là.
Bien sûr.
On a la chance aussi d'avoir un ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui vient et qui est là aujourd'hui d'ailleurs.
Tout à fait.
Et qui vient sur nos deux, qui est venu sur les deux éditions du forum. Les scientifiques, ça c'est capital.
Qui sont là aussi aujourd'hui.
Ils sont là aussi. On a d'ailleurs Marc-André Sellos, qui est un de nos scientifiques experts des sols, qui vient régulièrement, qui fait partie du board.
Bien
Donc
sûr.
Voilà, c'est vraiment un forum dédié sur les sols pendant deux jours où on invite... Justement, pour créer ces coalitions, c'est pour ça que j'ai eu un petit instant d'hésitation en me disant est-ce que c'est difficile ou pas, d'inviter et de se faire connecter, on y arrive. Maintenant, il faut vraiment qu'on passe à l'échelle et qu'on fasse en sorte que ces coalitions puissent faire émerger les solutions.
Là aussi, c'est ce que je dis depuis le début de l'émission, mais évidemment, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Très rapidement, parce qu'on doit terminer l'interview, la date de ce prochain événement
2026.
Et ben voilà, on se donne rendez-vous là-bas en tout cas. Merci infiniment à vous d'avoir été parmi nous aujourd'hui, Sandrine Sommer. Je rappelle que vous êtes la directrice du développement durable de chez Mouet Hennessy. Puis nous, on va continuer, bien sûr, l'émission. On va continuer nos rencontres avec un autre grand groupe dans un instant, Sopra Steria, avec lequel vous travaillez peut-être d'ailleurs, avec Axel Lemaire, tout de suite. Allez, maintenant, on va explorer le lien entre intelligence artificielle, numérique, responsable et transition écologique avec vous, Axel Lemaire. Merci beaucoup
d'être
avec
nous. Bonjour.
Bienvenue à Change Now aussi.
Merci. Vous êtes magnifique.
Magnifique. Je suis incroyable. Complètement d'accord. Vous êtes directrice de la performance durable chez Sopra Steria, l'une des deux entreprises dont on a parlé tout à l'heure. Alors, c'est vrai, quand on pense IA et transition écologique, c'est parfois des mots qui ne vont pas forcément dans la même phrase, et pourtant c'est un enjeu absolument majeur dont vous avez la charge aujourd'hui chez Sopra Steria.
Ouais.
Racontez-nous un petit peu ce que vous faites et pourquoi justement ces deux mots aujourd'hui, et notamment à Change Now, ils sont juste indissociables.
Tout à fait. Quand on pense intelligence artificielle ou numérique de manière générale, on pense nuage, éthéré, n'est-ce pas ? C'est assez abstrait, alors qu'en réalité, c'est très physique, c'est très matériel. Derrière ces technologies, il y a des minerais, il y a des métaux rares, des enjeux d'extraction qui sont polluants, hein, qui utilisent les ressources de la Terre. Et sur toute la chaîne de valeur, donc de l'extraction jusqu'à l'utilisation, vos usages, vous et moi, de ChatGPT, par exemple. Or, aujourd'hui, derrière l'enthousiasme et la propagation à une vitesse folle de l'adoption de l'IA par les particuliers comme par les entreprises, bien la question de la réalité de l'impact environnemental, que ce soit l'impact carbone ou l'utilisation de ressources comme l'eau, hein,
bien sûr,
elle n'est pas assez posée, et elle n'est pas assez posée, alors même que les projections dans les années à venir à court terme sont assez effrayantes. Aujourd'hui, la consommation électrique dans les centres de données, elle est à 400 kilowatt-heure par année. Elle était 200 il y a encore 3 ans et a priori x4 à venir d'ici 2030. On est sur des effets d'échelle massifs qu'on n'avait pas vus auparavant.
Est-ce que ça veut dire qu'on arrive du coup à concilier tech et environnement aujourd'hui, ou est-ce que c'est un enjeu...
Sans être trop simpliste ou caricaturé, je crois que jusqu'à présent, on y arrivait plus ou moins parce que la technologie permettait l'optimisation des systèmes. Et donc, il y avait la croissance numérique, il y avait la transition numérique, la dématérialisation, etc. Mais grâce à la technologie, on arrivait à contenir, on va dire, l'impact environnemental. Avec l'IA, le paradigme est différent.
Ouais.
Il faut regarder la question sous un autre angle. Et pour ça, il faut savoir mesurer. Et en fait, il y a une problématique de temps, c'est-à-dire que l'adoption est fulgurante.
Bien sûr.
Et on n'a pas encore des outils de mesure suffisamment précis. Et surtout, on n'a même pas accès à l'information. C'est-à-dire que les géants de la tech, qui sont les plateformes qui fournissent les grands modèles de langage et les capacités d'inférence, eh bien, ne fournissent pas l'information sur l'impact environnemental de ces outils.
Alors justement, vous soulevez un point qui est très important et très intéressant sur ces sujets justement de numérique et transition écologique. Mmh. Je ne sais pas si on peut parler de sobriété encore aujourd'hui, vous allez le voir sur ce salon et on aura peut-être une réponse tout à l'heure, mais ce qui est sûr, c'est que se pose une question en tout cas, qui il faut convaincre aujourd'hui? Est-ce que c'est justement ces dirigeants de grosses entreprises, notamment les GAFAM qui produisent ces données et qui donc en consomment, ou plutôt les dirigeants politiques qui vont être là aussi dans un instant? Quel est votre point de vue là-dessus?
Sur la sobriété, je me souviens, j'étais membre du gouvernement.
Bien sûr.
Il y a 10 ans, le mot souveraineté était un mot tabou. Ouais. Quand on disait souveraineté, on était targué d'être anti-innovation.
Ouais.
Aujourd'hui, il a fallu des crises. Il a fallu la pandémie, l'explosion des tarifs de l'énergie, la guerre en Ukraine pour réaliser que les enjeux d'autonomie stratégique doivent être appréhendés par les entreprises parce que ce sont des risques économiques réels.
Ouais.
C'est pareil pour la sobriété. En fait, c'est une réponse utiliser les technologies selon une forme d'usage raisonné. Et en fait, il faut poser la question en amont à quoi ça sert et pourquoi. Et donc, à la question qui doit décider.
Mais oui.
En fait, je pense que les dirigeants politiques ont un rôle à jouer pour donner une vision, un niveau d'ambition.
Ouais.
Comprendre quand même, pour partie, les enjeux techniques. Mais les ingénieurs et les techniciens, ceux qui maîtrisent les outils, ont un rôle politique immense à jouer, qu'ils sous-estiment beaucoup trop. Chez Sopra Steria, je suis dans une boîte d'ingénieurs.
Hein, alors justement, parlez-en.
Composée à 80% de salariés ingénieurs.
Tout à fait.
Et en fait, quand on se plonge dans les projets, on réalise à quel point ils ont un pouvoir de décider de la manière dont les outils sont paramétrés et donc la consommation énergétique en particulier sera importante ou pas. Introduire l'éco-conception comme un nouveau standard d'excellence professionnelle et donc la sobriété, c'est une manière aussi pour un développeur par exemple qui fait de l'IA et qui est enthousiaste lorsqu'il fait des développements d'IA, et bien d'orienter l'impact de ces développements. Donc, il y a un énorme travail, je pense, de débat et d'éducation,
de formation, presque aussi,
de, formation de vulgarisation aujourd'hui autour de ces enjeux. Il faut aller vite.
Merci infiniment. En tout cas,
merci à vous.
On vous souhaite tout le meilleur sur le salon. À très bientôt aussi dans BFM Climat.
À bientôt.
À bientôt. Merci à tous nos invités, merci à vous aussi de nous avoir suivis ici depuis le Grand Palais à Paris pour cette édition spéciale, et puis on se retrouve très très vite dans BFM Climat.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.